je ne fais jamais de musique normalement en me disant je vais faire un morceau comme ça, de tel type ou avec tel grain. Jamais je fais ça. Mais Jack in a Box, c'est le seul qui a été fait d'une envie.
Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Son nom est synonyme de créativité, d'authenticité et de nuit étoilée. Laurent Garnier est le patron, tout simplement le plus illustre DJ français, pionnier des soirées électro à Paris et star de la scène club internationale de Tokyo à New York depuis les années 80. Pour ce nouvel épisode de la série Beatmakers par David Comeyas et Samuel Hirsch, le producteur partage le micro avec son LBS crew pour disséquer le morceau Jack in the Box, sorti sur le label Headbanger.
C'était pendant LBS, et donc LBS était une formation où je faisais mi-DJ et mi-live. J'avais les deux musiciens avec moi, il y avait un clavier, Benjamin Ripper, il y avait un mec aux machines, donc mon acolyte de toujours Scanix. Je mélangeais entre une demi-heure de set DJ et Ben commençait à jouer du clavier, Stéphane était aux machines. Et il y avait un morceau récurrent que je jouais dans tous mes sets, qu'on appelait comme ça pour se marrer, parce que je me rappelle jamais des noms des artistes et tout, et donc on appelait le morceau du bonheur. Je le jouais tout le temps. Et donc, on se dit « Ah, tu l'as joué à quelle heure, le morceau du bonheur ?» Et puis, c'était un espèce de truc que j'aimais bien jouer. Je me rappelle même plus ce que c'était, d'ailleurs, que ce morceau-là. Et à un moment, on s'est dit « Il faudrait que nous aussi, on fasse un morceau du bonheur. » Parce que souvent, quand je compose de la musique, c'est souvent mélancolique. C'est souvent assez sombre, en fait. C'est la première fois que j'ai fait un morceau, pour moi, aussi ouvert et aussi joyeux. Donc, j'ai commencé à composer dans le studio pour faire un morceau plus joyeux que ce que j'avais l'habitude de faire. C'est parti d'un son, c'est parti du stack. Tam, 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 espèce de stack un peu général du truc, qui vient du... c'est Reactor. Mais c'est un stack joyeux. Voilà, c'est sur des notes beaucoup plus joyeuses. J'aime bien les notes noires, moi, tu vois, normalement, mais là, non. C'est que du blanc. C'est tin, 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 un truc comme ça. Normalement, quand je démarre un morceau, et ça, c'est quasiment tout le temps comme ça, hein, comme j'ai rarement une idée précise quand je vais faire de la musique, j'allume, et puis je commence à jouer. Je joue, ouais, c'est je joue. Mal. Mais je joue. La chose qui a changé par rapport à la façon de faire la musique il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a tellement de propositions avec tous les plugs qu'on est plus devenu... on joue plus avec des puzzles, en fait. Tu vois, il y a déjà beaucoup, beaucoup de propositions et en fait, les textures sont rapidement là. Avant, t'achetais un JD800, alors t'avais les nappes, t'avais les pianos, enfin, qui sonnaient pas piano du tout, mais t'avais les claviers, les stacks et t'avais pas tant de choses que ça. Et il fallait que tu passes du temps sur ta machine pour éditer les sons et à partir de ça, tu commençais à te dire, tiens, ce son-là, ça pourrait être bien en tant que basse. Mais aujourd'hui, tu as tellement de textures différentes qu'en fait, c'est un peu au petit bonheur la chance. J'allume Reactor et puis je vais en charger un dans Reactor. Je vais écouter. Ah bah tiens, j'aime bien ce son-là. Tu vas le toucher un peu. Tu passes beaucoup moins de temps en fait à éditer les sons aujourd'hui parce que tu as tellement plus de choses. Normalement, je démarre sur une texture. Mais là, sur Jack in a Box, j'ai mis un kick et on a trouvé le stack tout de suite. Pour moi, ce morceau... c'est une vision européenne de la musique de Détroit. Toute cette nouvelle garde que j'aime beaucoup d'ailleurs et que j'aide tout le temps et que je joue, les Yano Donovan, les mecs comme Oniris. Tout tous ces gens-là qui sont la nouvelle génération des mecs qui ont écouté beaucoup, beaucoup la musique de Détroit et qui font une musique Detroitesque, mais avec un peu de joie dedans. Il n'y a pas toute la mélancolie de la ville de Détroit. Tu peux prendre n'importe quel morceau de Transmat, les premiers Transmat, les tout premiers morceaux de Carl Craig. Il y avait une vraie tristesse dans cette musique-là et tu sentais que ces mecs faisaient de la musique, c'était vital. Tu vois, c'était pour survivre en fait. Quand je compose de la musique, je pense bien sûr tout le temps à l'endroit où le morceau pourrait être joué. Si c'est des trucs ambiantes, je vais me dire tiens, ça moi je l'écouterais bien avant d'aller me coucher après un set parce que je suis crevé, j'ai envie d'écouter un truc comme ça. Si c'est un truc un peu blues, je me dis tiens, peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie d'écouter un morceau comme ça parce que j'ai une mauvaise nouvelle et j'ai besoin d'aller noyer mon chagrin dans de la musique, ça va me faire du bien. Mais comme je fais aussi souvent de la musique faite pour danser, les deux images en fait qui me reviennent très souvent depuis les 20 ans où je fais de la musique, c'est le Rex Club ou le Dance Floor du Yellow à Tokyo. Voilà, c'est deux endroits que j'ai passé pas mal de temps. Enfin, le Rex, c'est toujours un endroit où je prends énormément de plaisir à aller jouer. Ça a été ma cour d'école, le Rex. Hein. On allait tester les morceaux, c'est-à-dire qu'avec Eric Morand, à l'époque, les artistes nous envoyaient des démos en DAT. On allait au Rex, on les essayait le soir. Et si jamais le public dansait, si jamais on avait un bon feedback, on signait les artistes le lendemain sur FCOM et puis même sur Fnac avant. Donc, c'est un lieu où j'ai appris à pouvoir jouer les morceaux au bon moment. Donc forcément, quand moi je me retrouve tout seul dans mon studio à essayer de faire de la musique, très très vite, je vais me dire à quelle heure je jouerai ça et avec quel autre titre je le jouerai. Et donc toute l'idée, oui, des breaks, de l'explosion, de ces montées et de ces descentes, c'est très souvent ce que tu retrouves dans ma musique. Et d'ailleurs, j'ai toujours aimé les très longs breaks. J'aime ça. Je crois que je ne vais jamais changer. Hein. Ça fait beaucoup sourire. Si, aujourd'hui, faire un break, c'est un peu vulgaire. Mais je m'en fous. Je continue à faire des breaks parce que j'aime ça. La respiration dans la musique, je trouve que c'est toujours une très bonne chose. Faire des morceaux tunnels, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. J'aime avec une intro, un milieu et une fin. Et l'idée, c'est d'avoir a good journey, un bon voyage. Il faut démonter, il faut qu'on en garde un peu sous le pied pour une espèce d'explosion à un moment. C'est ce qu'on recherche aussi. On va chercher ce côté assez hédoniste chez les danseurs. Donc la musique, c'est le premier truc pour aller créer des émotions. Ouais, cette espèce de gimmick là, qui est très musical, lui c'est un Norlead. De toute façon, le Norlead, c'est. Il y a toujours du Norlead dans tous mes morceaux. Quasiment tout le temps. quasiment tout le temps. C'est un synthé, hein. C'est un synthé que tu peux avoir avec un clavier ou tu peux avoir juste le boîtier et tu le branches sur un clavier maître. Voilà, c'est un très très bon synthé qui a été fait par... par Clavia. Alors j'ai Scanix avec moi, il va vous expliquer ce qu'est un Norlead.
En fait, le Norlead, c'était un des premiers synthés virtuels. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une partie logicielle dedans qui permettait de virtuellement recréer les possibilités sonores au niveau de la synthèse.
Alors, pour la basse, je pense que c'était un freeware. Je suis pas un neuneu du matos. D'accord. Le son de la basse m'a plu, qui est entre le SH-101 et le Juno 106. Voilà, un truc qui a un peu de son, un peu de grain. Tout de suite, j'ai touché un fil, je me suis dit « Ah ouais, c'est bien, je vais pouvoir l'ouvrir, ça va pouvoir énerver un peu le morceau. » Ouais, ouais, c'était un freeware. Je suis quasiment sûr que c'est un freeware, la basse. Je suis un très mauvais ingé son. Et donc, je ne travaille pas comme... une grande frange des musiciens électroniques d'aujourd'hui, qui sont plus des ingé-sons que des musiciens, où les mecs taillent et structurent leurs morceaux par rapport au placement. La basse, elle est dans telle fréquence, le stack, il est dans telle fréquence, mon charlet, il est là, j'ai déjà pris ces trois endroits-là dans le spectre, qu'est-ce qui me reste comme place pour pouvoir mettre des instruments ? Ça, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens qui travaillent comme ça, je ne travaille pas du tout comme ça. Je ne me considère pas vraiment comme un musicien. Il y a une idée de composer un morceau. Voilà, ça, c'est important pour moi. Et donc, je vais travailler sur des boucles très courtes et je vais additionner des choses. Malheureusement, pas de grande réflexion derrière la musique que je compose. Je ne suis pas un artiste qui a un besoin viscéral de souffrir pour créer. Il y a des artistes qui se gargarisent de ça, il y en a plein, mais qui ont besoin d'avoir des vrais conflits intérieurs pour pouvoir s'exprimer et dire des choses. J'utilise beaucoup plus mon métier de DJ, et d'ailleurs mon vrai boulot c'est DJ, hein. Moi j'ai commencé en tant que DJ, c'est mon rêve de gosse, je voulais faire danser les gens. Parce que j'avais un peu plus de mal à aller discuter avec mes potes, et donc j'utilisais la musique et je faisais des cassettes pour pas parler aux autres, mais pour exister au sein d'un groupe. Et voilà, la musique était tellement importante dans ma vie depuis que je suis gamin que je suis devenu qui je suis. Et donc forcément, le premier truc que j'ai voulu faire, je voulais être DJ. J'ai fait du DJing, j'ai commencé à faire ça, et puis un jour, j'ai un pote à moi qui s'appelle Ian Bland, qui a fait un morceau qui s'appelle Dream Frequency. C'est un vieux tube rave que j'adore, qui est vraiment un de mes morceaux favoris des années 90. Et Yann me dit, j'ai un petit studio à la maison, viens voir. Donc, je vais chez lui, il avait un sampleur et trois conneries. Et je lui dis, tiens, ça fait quoi ? T'appuies, ça fait pouette-pouette. Et tu dis, tiens, on va essayer de faire un morceau, comment ça marche ? On a fait un morceau, on a signé ce morceau le lendemain. Et à partir de là, je me suis dit, super, je vais commencer à faire de la musique. Mais je suis pas musicien. Et donc, ça a pris du temps. Et après, j'ai une exigence aussi par rapport à ce que j'ai envie de composer, où je vais passer beaucoup, beaucoup de temps. Mais pour moi, le studio, c'est un truc très privé et très perso. Même si je suis en studio et je vais faire un morceau pour faire danser, je vais essayer d'imaginer à quel endroit, à quelle heure je vais le jouer et qu'est-ce que je vais demander au mec des lumières, parce que tout ça, c'est très important. Même si je sais qu'à un moment, je vais le partager, c'est un truc privé. Je suis tout seul dans mon studio. C'est pour moi. Et puis à un moment, quand je me dis, je suis content avec, ok, je peux le lâcher. Voilà, je lâche le truc. Mais c'est pas du tout un désir de absolument faire de la musique pour m'exprimer. Je m'en fous, je me fais plaisir en fait. Oui, une fois de temps en temps, je vais aller cracher un peu ce que j'ai besoin de cracher. Il y a eu First Reaction quand Le Pen était passé en 2002. Et en fait, je travaillais avec un percussionniste américain qui me dit, moi, si Le Pen y passe, je rentre chez moi, tu vois. Et je lui dis, bah écoute, non, viens plutôt en studio, on va raconter quelque chose, parce que je ressens comme toi, je suis comme toi, je suis frustré, j'ai les boules. Et je pense qu'avec notre musique, il faut qu'on dise ce qu'on a à l'intérieur.
Say what? I woke up from this dream. Huh? Well, it was more like a nightmare. I didn't really know where I was. Huh? Wait a minute. There were all these people in the streets. It was some kind of protest. I didn't know what was going on. I couldn't believe their eyes. Their eyes were full of tears, huh? Huh? There was sadness. Huh? They had been hurt.
Mais c'est pas très souvent ma façon de composer. Mis à part tout ça, non, normalement, quand je fais de la musique, je me fais juste plaisir, en fait.
Moteur.
En fait, c'est Louis Chédid qui m'a fait acheter machine.
L'action se déroule dans ta ville. D'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement.
Machine est un logiciel, c'est une boîte à rythme en fait. Je connais bien Louis et c'est un voisin et souvent il vient dans le sud pour composer. Et en fait, je vais chez lui parce qu'il était en train de bosser sur des morceaux indiens, des trucs complètement improbables. Et il me dit, mais t'as essayé machine? C'est moi qui devrais lui emmener des machines comme ça, tu vois. Et tu vas chez Louis et il a plein de machines. De toute façon, c'est un mec qui essaye beaucoup, beaucoup de matos. Il n'y en a pas beaucoup comme ça en France, des chanteurs un peu plus classiques qui essayent tout. Mais Louis, il essaye beaucoup de choses. Et donc, je vais là-bas et je lui dis, ah tiens, ta machine, comment c'est? Il me dit, bah regarde. Et en fait, il me fait une démo en une demi-heure. Tiens, regarde, tu peux faire ci, tu peux faire ça et tout. Et donc, je m'achète machine. Il y a des milliers de sons, de percus et de patterns et tout à l'intérieur. Et en fait, ce clap, il vient un peu de l'idée d'un Carl Craig. Ce que j'adore chez Carl, c'est non seulement sa musique, mais c'est surtout sa production. Et c'est le patron. Quand tu écoutes sa musique, la façon dont il mixe ses morceaux, il n'y a pas grand monde aujourd'hui, quand tu écoutes leur musique, tu te dis c'est quasiment parfait. Lui, il y a Masséoplex, il y a des gens comme ça qui mixent tellement bien, ça devient une espèce de cas d'école pour nous qui sommes très mauvais ingé son. On se dit, putain, mais comment il fait quoi? Et donc, Carl avait fait un morceau avec un clap qui était un peu comme du bruit blanc, et en fait, j'avais appelé le clap Carl Craig. Parce que ça m'a appelé Carl Craig. Et ça vient de machine. Voilà. Je ne l'ai pas appelé le morceau du bonheur parce que je trouvais plus pertinent, en tout cas plus drôle par rapport à l'histoire avec Pedro Winter, de l'appeler Jack in the Box. Pour la simple et bonne raison, c'est que Garnier chez Headbanger, je savais que ça allait faire couler un peu d'encre. Ça nous faisait beaucoup marrer avec Pedro. En fait, l'histoire, c'est que j'ai fait ce morceau. Je crois que j'ai dû le mettre sur mon SoundCloud. Et la première personne qui l'a écouté sur le SoundCloud, c'est Pedro. Pedro m'a rappelé le lendemain et il m'a dit une très très belle chose. Et je connais Pedro, c'est quelqu'un de très sincère. Et il m'a dit, écoute Laurent, c'est quoi ce morceau? Je lui ai dit, bah, c'est un nouveau truc que je viens de faire. Voilà, c'est même pas signé, c'est même pas mixé. C'est juste un truc qu'on fait en live en ce moment avec les garçons. Et il me dit, tu sais, ça fait longtemps que je te dis que j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble. Si Mehdi était toujours en vie, je pense qu'il aurait adoré signer ce morceau. Et là, ça m'a fait « Oh !» Parce que je sais ô combien Pedro la disparition de Mehdi a été très très difficile pour lui, et qu'il vienne et me dire un truc comme ça, je me suis dit waouh, c'est lourd de sens. Et donc je lui ai dit bah on y va. Mais je lui ai dit, tu sais très bien que ça va faire jaser quoi. C'était surtout à l'époque où il y avait les pros et de bangers, les contres. Voilà, il y a plein de gens qui voyaient Pedro comme quelqu'un d'un peu trop médiatique, alors que c'est quelqu'un d'absolument délicieux, mais il a eu une période où il était et bien vu et mal vu. Et donc, comme moi, je suis pas aussi médiatique que lui, je savais que ça allait faire grincer des dents. Et donc forcément, on s'est marré au téléphone tous les deux en se disant, t'en as rien à foutre ? Bah toi non plus, donc on s'en fout, on y va. Et je lui ai dit, bah oui, bien sûr, on y va. Donc en fait, l'histoire d'un Jack in a Box, c'est les pantins qui sortent des boîtes. Tu sais, quand t'ouvres une boîte, et t'as cette espèce de pantin sur ressort qui te surprennent en fait, tu vois. Cette espèce de jouet pour enfants. Et pour moi, le Jack in a Box, c'est moi le pantin qui est dans la boîte. Et quand on ouvre le disque, bah tiens, Garnier sur Headbanger. Mehdi, c'est... ouais, producteur mythique de Headbanger, ça c'est sûr. Je sens aujourd'hui, avec sa disparition, que Mehdi a été extrêmement influent sur le début de Headbanger. Et je te dis, le Jack in a Box, le premier truc qu'il m'a dit, mais la façon dont il m'a dit, Mehdi, il aurait adoré signer ce morceau-là. Et pour moi, il a tout dit, quoi. Tu vois, et je lui ai dit, Pedro, mais bien sûr, je te le donne tout de suite. J'ai trouvé cette phrase très, très, très touchante et je lui ai dit oui, tout de suite. Poser à Stéphane s'il avait envie de venir faire mon son et d'être mon ingé son, parce que je trouve que c'est une part extrêmement importante dans la composition. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, les musiciens, c'est plus des ingé son que des musiciens pour la plupart des mecs dans la techno. Mais je trouve que c'est un élément très important. Et donc, oui, Stéphane me suit depuis 15 ans, je crois, à mixer absolument tous mes morceaux, tous mes remixes. J'aime ce qu'il fait, j'aime son travail et j'aime son calme, ce qu'il m'apporte. Bon, je sais surtout que je peux lui prendre la tête. Jack in a Box, je crois qu'il a dû faire 20 ou 22 mix de Jack in a Box. Parce que c'était un morceau compliqué, comme d'habitude, je mets trop de pistes. Je vais pas placer mes instruments en fonction de l'équalisation du truc. Y a toujours trois basses, enfin, y a toujours des choses qui se chevauchent, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, voilà, j'emmène Stéphane à la fin en lui disant, voilà, il y a tout ça, toutes des merdes, et donc je reste avec lui. Il a plus beaucoup de cheveux, comme tu peux voir, et il m'explique, en fait. Il lit tous les bouquins sur le mastering, il connaît tous les boutons des machines, il connaît tout par cœur. Moi, je suis plus à... on va pas lire la notice, hein, on va pas perdre du temps. On va tourner les boutons, on va voir ce que ça fait. Donc forcément, c'est deux approches différentes. Le truc qui est fort, c'est que lui, il va mixer dans son studio, il va me l'envoyer le soir même, je vais l'essayer à Tokyo ou je vais l'essayer à Londres. Et donc, je l'essaye sur des systèmes de fous. Et je peux le rappeler, et on bosse beaucoup comme ça, je lui envoie des textos. Alors les hats, faut les baisser, faut monter ça, la basse elle dégueule, c'est pas bon. Là j'avais des retours de merde, donc attends demain, je vais te dire. Et en fait on travaille comme ça, je les teste plein de fois, jusqu'au moment où on est content du résultat. Mais je le rends un peu fou quand même. Donc j'ai un Scanix avec moi tout le temps.
Effectivement, avec Laurent Garnier, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble sur le son. Mais Laurent, je le connais depuis 25 ans. Moi, j'ai signé sur Fnac Musique et c'est là où je l'ai rencontré en 93. On a beaucoup voyagé ensemble, on a beaucoup joué ensemble. On n'a pas forcément besoin des fois de se parler 10 ans pour savoir ce qu'on doit faire ou là où on veut aller. Après, les spécificités sur ce titre, on voulait une couleur un peu électrique. C'est peut-être pour ça, quelque part aussi, s'est retrouvé peut-être sur Headbanger. Voilà, une musique un peu plus peut-être électrifiée que ce qu'il fait d'habitude, là. Et je pense que ça, on a réussi à avoir ce grain et cette couleur dans le mix.
C'est ça, le fait de vieillir dans un monde où on parle à une clientèle qui est relativement jeune, en fait. La plupart des gens qui me suivent aujourd'hui, ça pourrait être mes enfants. Donc il ne faut pas que je devienne un espèce de vieux jukebox poussiéreux qui se répète inlassablement. Et donc je pense qu'en tant qu'artiste, je dois toujours me remettre en question. En fait, pour moi, Jack in a Box, c'était un EP où j'avais envie de replacer une cartouche en disant, voilà, je ne suis pas complètement has-been, je ne suis pas à 20 000 km, je sais ce qui se passe. Voilà, j'ai envie de faire un morceau comme d'anciens morceaux que j'ai pu faire, qui sont un peu emblématiques. Et il est plus abouti, peut-être, que d'autres, parce qu'il est plus crossover entre la techno, la house. Et en le jouant hier soir au Rex et en voyant la réaction des gens, en fait, c'est un des marqueurs, quand on se retournera et on regardera la carrière que j'ai eue, je pense que c'est un marqueur assez important dans ma discographie. Surtout aussi parce que c'est un morceau qui me ressemble beaucoup.
Arte Radio.
Le bruit que j'adore dans la vie. On vit dans une période, dans un monde très bruyant. Quand tu voyages, les avions, c'est bruyant. Tout est bruyant, en fait. Le truc que j'aime par-dessus tout, c'est quand j'ai découvert les casques où tu pouvais annuler le son et avoir un pseudo-silence. J'écoute de la musique quasiment 10 heures par jour. J'ai un casque collé sur les oreilles quasiment à 8-10 heures par jour. Plus les trucs de studio, plus les voyages, plus la télé. Il y a un moment où le silence, ça c'est pas mal.